Voilà, sur France Culture et partout ailleurs, il est presque midi, l'heure de retrouver Olivia Gesbert. Bonjour Olivia.
Mais bonjour Florian, c'est vous que j'entends. Vous allez bien ?
Je vais très très bien.
Bon, bah parfait. Bah maintenant il est midi, donc je vous laisse parce que ça va être l'heure de la grande table.
Belle grande table et bon appétit.
Mais restez avec nous, hein, c'est jusqu'à 13h30.
On va rester.
Merci. Et on commence cette grande table par les titres du journal avec vous, Antoine Mercier. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. La liste des candidats pour la primaire à droite rendue publique aujourd'hui. L'exercice se déroulera sur deux tours les 20 et 27 novembre et il marque le début de la pré-campagne présidentielle, nous dira Frédéric Seyss. Le gouvernement promet une opération d'ordre humanitaire lors du prochain démantèlement du camp de migrants de Calais. Ce matin, Bernard Cazeneuve s'est défendu de tout laxisme devant la commission des lois et cette Stéphane Robert qui suivait pour nous cette audition. La guerre en Syrie, à nouveau marquée par des bombardements qui visent des humanitaires. Il y a quatre membres syriens d'une ONG médicale basée en France qui ont été tués la nuit dernière dans ce raid aérien donc qui a touché un centre médical dans le sud de la province d'Alep. Correspondance de Marc Crépin. Un nouvel accrochage aussi aux États-Unis à Charlotte, en Caroline du Nord. 12 policiers blessés lors d'affrontements survenus après la mort d'un noir américain abattu par un policier. Et puis c'est la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer. Une étude récente note une tendance à la stabilisation, voire à la diminution légère des nouveaux cas dans les pays riches. L'abécédaire de campagne après le journal tout à l'heure à la lettre R comme renouvellement, Ludovic Piétenu recevra Thierry Mandon, secrétaire d'État d'enseignement supérieur. Voilà pour les titres. Olivia Gesbert, c'est à vous.
Merci beaucoup. On commence cette première partie de la grande table tout de suite jusqu'à 12h30 et on vous retrouve pour le journal Antoine Mercier à 12h30 donc. Bonjour à tous. Comme un mercredi, on est bien heureux de se retrouver. D'abord, pour se remémorer, ce sera à partir de 12h55 avec l'historien israélien Saul Friedlander. Une vie marquée par la Shoah. Il revient avec Où mène le souvenir, réflexion autobiographique qui paraît au seuil ces jours-ci. S'émouvoir, tout d'abord. 2 ans après l'annonce faite à Marie, elle revient au Bouffe du Nord pour y interpréter Violetta. Une Violetta sombre et fragile, incandescente, dans une adaptation très libre de la Traviata, mise en scène actuellement par Benjamin Lazare. Un amour vrai serait-il un malheur pour moi ? La question mérite d'être posée ce midi à notre invitée Judith Chemla. Bienvenue à tous, on est ensemble jusqu'à 13h30 dans la grande table.
La grande table. Olivia Gesbert.
Dans le public, cachée avec un petit micro sous
c'est
la
vrai.
Scène. Hein. Elle a conçu cette pièce avec Benjamin Lazare et Florent Hubert. Le premier l'a ensuite mise en scène. Le second a pris en charge la direction musicale de cette aventure entre musique, théâtre et opéra, présentée comme une fête musicale et fantasmagorique, à préciser. Dans tous les cas, bye bye Verdi. Bonjour Judith Chemla.
Bonjour.
Comédienne, chanteuse lyrique, tête d'affiche. Elle capte toute la lumière et occupe tout l'espace, trop peut-être. Dans Traviata, vous méritez un avenir meilleur. C'est le titre qui se joue joue actuellement au Bouffe du Nord jusqu'au 15 octobre, avant une tournée en France. Vous êtes Violetta, une Marie Duplessis de la Dame aux Camélias, chanteuse aux mœurs légères qui passe d'homme en homme, courtisane rattrapée par l'amour en la personne d'Alfredo, à qui elle sacrifiera tout, c'est-à-dire son bonheur, son goût pour la fête, sa vie, jusqu'à un avenir meilleur. Elle voulait oublier dans ses bras le passé. Elle lui a tout donné, elle lui a sacrifié son amour, son avenir. C'est un grand désenchantement quand même cette affaire, une grande trahison.
Une trahison vis-à-vis de quoi ?
Du sentiment amoureux. On croyait non. Que ça pouvait bien se terminer.
Non, parce que moi je le vis pas comme ça, je pense qu'elle le vit pas comme ça. Elle accède aussi à un amour qui dépasse la mort, quoi. Et c'est ce qu'elle lui dit, elle se projette au-delà, elle se projette dans l'éternité. C'est une femme qui a vraiment existé, on en parle encore aujourd'hui, donc je trouve pas que ce soit un désenchantement, au contraire.
Ce sont effectivement les derniers mots, l'idée de retrouver la vie, de redonner vie à travers cette mort amoureuse quand même. Elle y croyait pas, et petit à petit elle tombe sur le grand amour, pour faire très court, tenter de résumer un peu l'idée de cette Traviata, mais beaucoup de bâtons dans les roues, beaucoup d'obstacles sur son chemin, et il y a quand même tout au long de cette pièce, il faut dire pièce ou opéra ?
C'est tout, c'est
on est bien
tout
embêté.
En même temps,
hein. Ouais, donc on reste sur la fête musicale et fantasmagorique.
C'est un peu long, mais...
Quelle place donnez-vous, vous, à la dimension un peu mystique de la révélation amoureuse de Violetta dans la Traviata ?
C'est quand même ça, c'est un des moments les plus beaux aussi, quand il lui parle de l'amour qui est le souffle de l'univers entier, qui lui fait accéder quand même à cette dimension, quoi, qui n'a pas de temps, qui a un amour qui est plus fort que la mort, plus fort que la vie matérielle, plus fort que l'accomplissement dans la vie, comme ça.
Fort que le déterminisme, comme je dis de Chemla, parce que elle le dit, elle le chante, ainsi, quoi qu'elle fasse, la créature tombée ne se relèvera jamais. Mmh. Ailleurs, un autre protagoniste dit, chante, seul dans ce désert peuplé, qu'est-ce que j'espère encore ? Il y a quand même une fatalité qui traverse tout ce ouais. récit, et le sentiment qu'il n'y a finalement aucun rachat possible.
Après, c'est le monde social, quoi. Mais à la fin, celui qui a été celui qui est le représentant, quoi, de la morale de l'époque, se dit, je vois tout le mal que j'ai fait. Donc, dans les consciences, il y a quand même entre guillemets ce rachat la pureté du cœur qui est vue.
Mais à quel prix ?
À quel prix, oui. Ouais.
C'est une Violetta fragile, gracile, éthérée, presque proche de la folie aussi que vous avez choisi d'incarner. Comment vous l'avez imaginée, cette femme ?
J'avais envie de parler de cette façon de brûler sa vie, quoi, de vivre, de savoir. Elle sait qu'elle va mourir parce qu'elle a la tuberculose, donc il y a une façon d'appréhender la vie en un souffle, quoi, où tout doit être vécu très vite. Et je trouve que sa façon de se jeter dans l'amour, elle a un rapport avec sa façon de se jeter dans la fête, se jeter dans l'instant, quoi.
Dans les plaisirs et dans les artifices aussi. Elle a quelque chose de fort, quand même, cette femme.
Oui. Ah oui.
Elle la trouve où, sa force ? Ou elle la place où ?
Je pense dans l'instinct de vie réveillé par la mort. Je sais pas. C'est une femme aussi qui a été vendue par son père à 14 ans comme prostituée. Et en même temps qui avait des dons pour la musique, qui a appris à lire très très vite, elle était assez fulgurante, cette femme, je sais pas, c'est mystérieux.
Après Nathalie Dessay, après la Calas surtout, vous avez donc choisi, ou vous êtes Violetta actuellement au Bouffe du Nord. Comment choisit-on d'habiter un rôle ? Écoutons Maria Callas.
Et alors vous-même, quand vous abordez un rôle, est-ce que vous avez besoin d'une certaine affinité avec le personnage que vous allez jouer ?
Bon, ça c'est un peu difficile. Vous savez, avec le personnage, on doit pénétrer, on cherche de pénétrer dans ce que c'était. Et sur ça, on dit, si j'étais celle-là, qu'est-ce que j'aurais fait? Évidemment, on cherche de se changer, beaucoup. Mais il faut se changer en étant elle-même. C'est-à-dire, tu dois être toi-même avec ses idées. Et puis, cet instinct, ma chère.
C'est l'instinct,
le premier instinct que tu portes tout de suite sur ça. Sur ça, puis après, tu travailles les détails. Mais c'est l'instinct tout de suite.
Et est-ce que l'instinct pour vous, c'est musique et parole en même temps, ou est-ce que c'est d'abord la parole? Est-ce que c'est d'abord
ce
que
dit
musique. Cette femme?
D'abord la musique. Parce que qui a fait la musique, l'a fait sur les paroles. Ils n'étaient pas si bêtes que ça.
Je me rappelle que quand je vous ai vu à Milan, vous avez beaucoup insisté, vous discutiez avec le docteur Ghiringhelli, sur le côté jeu dans l'opéra, en somme, et il me semble, si je me souviens bien, que vous estimiez que l'opéra, c'était d'abord une action dramatique, en somme, et du théâtre, et qu'il ne fallait pas l'oublier, jamais l'oublier,
ah, bien sûrement.
À cause de la voix. C'est toujours votre idée?
Oui, toujours, et j'insiste sur ça, et il y a les preuves que la jeunesse ne va pas. Parce que franchement, ça peut être une chose très ennuyante s'il y a seulement la voix. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte avec la télévision, évidemment, ils sont habitués à la perfection. Si nous, avec un métier vieux et un peu ennuyant, et alors il faut persuader le public que c'est vrai, ou au moins donner l'illusion d'une vérité.
Mais alors, est-ce qu'on peut apprendre à jouer?
Non.
C'est impossible.
On peut améliorer, mais on est né, pour ça, on n'est pas né.
Vous fonctionnez aussi à l'instinct, j'aime là.
Oui, à l'intuition, oui. Non, c'est vrai. On ressent qu'on peut faire quelque chose ou qu'un rôle ou qu'un projet appelle. On sent qu'on doit le faire. Quoi. C'est pour ça qu'on pourra donner quelque chose de beau. C'est assez mystérieux quand même, mais...
Ça veut dire que ma question précédente était fausse. Quand je vous dis comment vous avez choisi d'interpréter ce rôle, c'est pas à l'avance vraiment qu'on dit ça, je vais le jouer comme ça, de telle manière, je vais vouloir dégager ça, ou telle impression, tel sentiment, donner ça à voir, ça à comprendre.
C'est plutôt que je me dis je comprends déjà. La musique, elle est inspirée, Verdi, il est vraiment inspiré par ce qu'il a vu. Il a vu la pièce un an avant d'écrire l'opéra, je crois. Et il paraît qu'il écrivait en disant le texte, en le répétant, et que la musique venait. Donc on sent que la musique est empreinte de l'expérience humaine dans les situations. Ça se sent, quoi. C'est les fibres humaines qui ressortent dans cette musique. Donc c'est pour ça, moi, ça m'a touchée. Très jeune, infiniment. Et j'avais une sensation de comprendre cette femme, de comprendre ce qu'elle vit, de comprendre ce qu'elle traverse et de me dire que je pouvais le porter, quoi, que je pouvais le donner parce que je le comprenais intimement.
Et comme la Callas, vous pourriez dire que vous faites aussi passer d'abord la musique avant le drame, avant la parole.
Je sais pas. Je me dis que c'est un. C'est une chose.
D'ailleurs, il y a un mot que vous chantez finalement merveilleusement bien dans cette pièce, c'est le mot jouir.
Oui. Oui. Bah, c'est à propos de ça, oui, quand même.
Alors lui, il jaillit vraiment de quelque part. Hein. Il y a le mot folie qui lui succède. Mais c'est deux mots. Comment vous le faites, jaillir?
Jouir. Sola abandonata. Je suis perdue, seule, abandonnée dans ce désert peuplé qu'est Paris. Qu'est-ce que je dois faire? Que faire maintenant? Jouir. Et mourir de volupté. Jouir, 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 toujours libre. Donc oui, on a envie de s'abandonner. En même temps, c'est paradoxal, parce qu'elle dit ça en voulant peut-être échapper à l'amour. Enfin, mais bon, il y a tout en même temps, quoi. Je pense que c'est ça. Enfin, on se dit que jouir, c'est peut-être l'inverse d'aimer, mais je pense que tout se mélange en elle, quoi.
Judith Chemla, vous pianotez dans la vie et aussi sur scène. Vous avez, vous, suivi une double formation, théâtre, chant lyrique au conservatoire. Vous êtes assez artiste complète, hein, pour le coup. Si complète que vous êtes à un moment, peut-être, vous vous êtes à un moment donné de votre vie, décidé de quoi? De vous tailler des rôles sur mesure? Celui-là, il l'est.
Bon, c'est-à-dire, moi, j'ai un peu le luxe de me dire, de choisir ce que je fais, quoi. Je fais pas quelque chose pour me dire, bon, bah, je continue à bosser. Non, je fais ce que je veux faire vraiment. Donc, Donc, ça, c'est une chance extraordinaire. Et puis, donc je vais vers... Ça, c'était mon rêve. C'est mon rêve absolu. Après, je ne sais même pas ce que je vais faire après ça, parce que c'est mon rêve absolu de faire ça.
Mais justement, vous qui aimez faire tout et ce contraire, là, vous faites tout. Vous avez tout dans ce rôle-là, dans ce rôle de Violetta.
Oui, c'est vrai.
Ça va être dur de continuer après, non?
Bah ouais, c'est vrai. Moi, je peux mourir après.
Restez encore un peu. Musique, théâtre et opéra, qu'est-ce qu'apporte pour vous ce mélange des genres hein, que vous avez déjà pratiqué dans Le Crocodile Trompeur, qui était une adaptation de Didon et Aîné il y a 3 ans, et qu'on retrouve ici dans cette Traviata adaptée?
Oui, dans Le Crocodile, c'était...
C'était plus loufoque.
Ouais, c'était loufoque, et moi, j'avais vraiment la partie dramatique et chantée. À ce point de parler, chanter, de passer de la parole au chant, c'est la première fois qu'on compose une chose aussi, qui navigue à ce point. Bah, ça me paraît. Enfin, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, quoi. Ça me paraît être l'endroit idéal, quoi. Naturel aussi, quoi.
Il n'y a pas de grand orchestre, il y a simplement 7-8 musiciens.
8 musiciens.
Entre classique et gitan, quelque part. 5 chanteurs, il n'y a pas de fosse. Les chanteurs, les comédiens, les musiciens, tout le monde est un peu itinérant sur cette scène. Chacun évolue dans une sorte de ballet de rôle et on échange. Il y a aussi ce parti pris qui est de faire se succéder les instruments et se succéder des passages chantés et parlés qui alternent, se confondent. C'est un pari assez réussi dans la mise en scène qui est très délicate de Benjamin Lazare. Est-ce que derrière ça, il y avait vraiment ce questionnement de comment faire basculer, tout en délicatesse, un grand opéra, très puissant, comme ça, très 19e, dans un registre plus intimiste?
Oui, c'est vraiment le but. Dans ce théâtre mythique quand même de Peter Brook, qui parle de l'espace vide, de la nudité, c'est le but, quoi, de dépouiller l'opéra, de le mettre à nu, de montrer sa vérité, son intimité, c'est notre projet, quoi, c'est ça.
Et presque de le susurrer, parce que c'est vrai que c'est ce qui marque tous les spectateurs de cette pièce opéra, c'est qu'on a l'impression que vous nous chantez dans l'oreille.
Oui. C'est un théâtre merveilleux pour ça. On n'a pas besoin de... Enfin, des fois, il faut évidemment la puissance emporte et tout ça, mais le moindre souffle est perceptible, donc c'est magique.
Ça n'autorise pas beaucoup d'erreurs, c'est
oui,
aussi ça.
C'est vrai.
Il y a eu le Mahabharata, la flûte enchantée, l'annonce faite à Marie, pour laquelle vous étiez venue nous en parler d'ailleurs il y a 2 ans, et maintenant la Traviata, cette scène, celle des Bouffes du Nord, ce théâtre de Peter Brook, est-ce qu'il autorise tout? Est-ce qu'il se prête à tout pour vous?
Je ne sais pas, je pense qu'il a besoin qu'on l'écoute aussi, ce théâtre, quand même. J'ai l'impression qu'il faut le prendre en compte quelque part. C'est vrai que quand on arrive avec un gros décor, je sais pas, on peut passer à côté, mais quand même, il ouvre des voies, il parle, il est plein de présence, il a une âme incroyable, donc quand on arrive à l'épouser, ça décuple le spectacle, je pense.
Alors du coup, est-ce que c'est l'espace qui a indéniablement guidé tous les choix de mise en scène, voire l'adaptation de l'œuvre, ou est-ce que vous avez quand même porté vos idées dans cet écrin et tenté d'adapter?
Évidemment, on est inspiré par cet espace. On se dit que c'est possible, en fait, de faire un opéra intime, là. Mais après, évidemment qu'on a... On a des idées, on a envie d'ouvrir ce champ infini, de voir comment la musique surgit, comment les gens, les musiciens font naître la musique, comment ils sont aussi des acteurs, comment on n'exécute pas la musique, mais qu'elle naît, c'est une nécessité. Je trouve qu'on n'a pas fini d'explorer ça.
Midi 18, laissons la musique surgir.
Vivo una vita di me.
Qu'est-ce qui se passe ici? Acte 2?
Ah là, oui, c'est l'acte 2, oui. Là, le père vient de lui demander de renoncer à son amour parce que ça ruine la réputation de leur famille, ça ruine le mariage de sa fille, donc la sœur d'Alfredo, ça ruine la réputation d'Alfredo, et puis et voilà. Donc, elle est en train d'accepter de renoncer.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Judith Chemla, qu'on peut voir sur la scène des Bouffes du Nord actuellement pour une Traviata qui mériterait un avenir meilleur, une adaptation de la Traviata de Verdi, bien sûr, jusqu'à la mi-octobre et qui sera ensuite en tournée dans toute la France. Le théâtre, pourquoi Judith Chemla? On va écouter Muriel Mayette, votre professeur au conservatoire et celle qui vous a recruté à la Comédie Française en 2007, déclarer sa flamme aux mots et aux auteurs, surtout pensionnaire. 2 ans que vous avez été, pourquoi vous n'êtes pas restée d'ailleurs?
1 an et demi. J'ai adoré y être, mais bon, je sentais que j'avais d'autres choses à faire ailleurs, puis c'était pas tout à fait compatible, et puis, bon voilà.
Cette Traviata, vous auriez pas pu la faire à la Comédie Française?
Bah non.
Elle dit de vous que vous êtes d'une fragilité incassable. On écoute Muriel Mayette.
Pourquoi le théâtre? Parce que d'abord c'est un rendez-vous avec l'auteur, et puis avec l'autre. C'est un des arts pour moi parfait, complet. Parce que c'est pas un art que tu pratiques tout seul. Et en même temps, tu es grandi par les auteurs. Moi, j'ai pendant longtemps culpabilisé parce que j'ai fait du théâtre très jeune. Je suis partie de l'école à 16 ans. Et je me disais, mon Dieu, je n'ai pas fait d'études. Mais je mesure maintenant ce que les auteurs, en les jouant, en les pesant dans ton corps quand tu les joues, m'ont appris.
Qu'est-ce qu'ils vous ont appris?
Peser la puissance des mots. Le collage des pensées qui ne sont pas les miennes, qui sont celles du personnage. C'est un regard sur le monde et ça répond petit à petit à toutes les questions que l'on se pose. Pourquoi je suis sur la terre? Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? Etc. etc.
Alors je vais prendre une question au hasard. À quoi ça sert?
Je crois à laisser le plus possible de la beauté pour la suite, pour les autres. À en profiter au maximum dans le rayonnement des belles choses, des belles pensées. Et pour ça, il faut beaucoup de courage. Et pour avoir du courage, il faut beaucoup d'imagination.
J'ai envie de piquer les questions de mon confrère François Bunel. À quoi ça sert, Judith Chemla?
Les spectacles, le théâtre? Je ne sais pas si on peut vraiment y répondre vraiment, parce que... Mais ouais, à se rencontrer, à avoir, je pense, à avoir de l'amour pour les autres, pour soi, à se comprendre, à comprendre des choses qu'on n'aurait pas comprises. Je sais pas. Je pense qu'il y a toujours une part de mystère. Il y a aussi quelque chose. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai vu, quoi? C'est plus grand que ce que j'imaginais. Enfin.
Et ça répond aussi à la question de pourquoi vous faites tout ça.
Ah, c'est comme ça, c'est un peu comme... C'est comme ça, on a des choses en nous, il faut les donner, quoi. C'est une nécessité.
Vous savez vers quoi vous voulez aller maintenant?
Non.
Quoi d'autre?
Non. Mais je sais que je saurais reconnaître vers quoi je dois aller. Mais pour l'instant, je fais ça. Déjà, moi, je veux que chaque représentation s'épanouisse et s'ouvre. Et c'est une assez grande mission pour l'instant, j'en ai pas besoin d'autre là.
On vous verra quand même au cinéma assez prochainement. Vous étiez au Festival de Venise, à la Mostra, où vous avez présenté Une vie de Stéphane Brisé, une adaptation de Maupassant.
Oui.
Vous êtes Jeanne?
Oui.
Ah, encore une histoire de femme qui oui. Fend le cœur.
Oui. Oui. Oui, il y a une vraie filiation entre Jeanne et Traviata.
J'aimerais bien que vous me parliez un petit peu de vos deux comparses sur cette affaire, cette Traviata, et à commencer par Benjamin Lazare et à ses choix de mise en scène. Alors vous avez conçu ce spectacle ensemble, lui a pensé la mise en scène de son côté, ou vous êtes intervenu là encore?
C'est-à-dire que quand je lui ai parlé du projet, j'ai une façon de parler un peu comme ça, instinctive, un peu abstraite. Lui, tout de suite, il a fait des liens avec des poètes, avec des idées. Il a vu des choses, il a mis en image, Ouais, en perspective, en fait, il a rejoint mon désir, mais en passant par ailleurs, et une chose que j'aurais pas pu penser moi-même, quoi. Ça, c'est assez magique. Benjamin, il a un esprit qui capte les liens visibles entre les choses. C'est assez fascinant. Donc, il a eu, ouais, il a écouté toutes les intuitions, il a mis le roman. On a été fouillés comme des archéologues. D'où vient cette femme? On a essayé de retrouver sa vérité, de la traquer un peu.
Et l'une des particularités de cette mise en scène, c'est l'utilisation double d'éléments du décor. Ça commence avec ce grand rideau de tulle qui est au sol et qui est à la fois celui de la robe de mariée, mais aussi le linceul de Violetta sur la fin. Il y a l'utilisation de ces fleurs qui sont très vite ou tout de suite fanées et qui se retrouvent effectivement dans le temps de la fête, mais aussi dans le temps du deuil presque. Il y a de cette idée de la drogue qui euphorise et de cette drogue poison. Tous ces éléments qui reviennent dans tous les temps de la pièce et du récit. Ça, c'était une idée de Benjamin Lazare?
Mais en fait, ça s'est fait petit à petit. Ça s'est fait... Les idées rentrent en coïncidence comme ça. Le voile, c'était aussi une façon de cacher les objets après décès. Après... comme dans un appartement, quand tout est recouvert. Et il y avait aussi cette idée du fantôme. Quand on est dessous, on est un peu comme des fantômes, mais c'est pas tamponné comme ça, explicité. Mais Benjamin, il est un peu hanté par cette idée de fantôme, quoi. Comme si elle hantait les siècles, cette femme. Et c'est ce qu'elle dit, c'est ce que dit l'opéra. Donne cette image de moi à celle que tu épouseras et dis-lui que je prie pour elle et pour toi du ciel. Mais c'est une façon aussi de rentrer peut-être dans des femmes, dans d'autres femmes, dans les interprètes, quoi. Dans, je sais pas, d'investir la réalité. Moi, on prend un petit peu ces parties-là, quoi. Donc après, les fleurs, tout ça se fait un peu petit à petit. Elle lui dit « je serai là parmi les fleurs, toujours près de toi, aime-moi comme je t'aime », alors qu'il ne sait pas encore qu'elle va le quitter, qu'elle mourra. Je ne sais pas, tout ça s'agrège petit à petit. Ce n'est pas une volonté de mise en scène préétablie. Ça surgit au fil des répétitions, quoi. Ça se confirme, ça.
À la fin, sur l'écran, où sont traduits aussi les airs chantés en italien, il y a presque la vente aux enchères de Barbara. Il y a le trousseau décliné de Violetta avec les prix qui correspondent à chacune des pièces qui défilent. Qu'est-ce que ça dit? C'est le prix d'une vie, ce qu'il en reste au final.
dans le monde visible, dans le petit monde visible, mais. Oui, c'est l'inventaire après décès, en fait, de tout ce qui lui restait. On se demandait si on commencerait le spectacle avec ça ou pas, puis ça a trouvé sa place comme ça, juste avant l'acte où elle meurt, quoi.
Oui. Un mot aussi de Florent Hubert, qui a pensé aussi la musique.
Oui.
Pourquoi avoir fait ce choix d'être entre le circassien et le gitan? Oui, on est presque dans un cirque quand même par moment. Il y a cette idée chacun défile.
C'est-à-dire que des fois on a réécrit, Florent a réécrit certaines parties, on a enlevé par exemple les moments de fête. On n'est plus, il y avait une chose aussi dans l'opéra 19e, dans la façon de faire la fête qui pouvait pas totalement coller avec cette adaptation, quoi. Donc, il a écrit des choses qui sont plus cauchemardesques ou plus intrusives, plus... Voilà, bon, c'est vrai.
C'est circassien dans un terme visuel, pas effectivement dans la musique. Ouais.
Donc, il a cauchemardisé un peu la partition à certains moments. Mais toujours très à l'écoute des musiciens. On s'est dit que, il y avait un côté tarentelle... On a cherché un peu du côté de la tarentelle pour voir, parce qu'on sait que Verdi est inspiré par la musique populaire, donc on a été chercher là-dedans. Voilà.
Vous voyez, Antoine Mercier qui vient d'arriver dans le studio. Ça veut dire que ça va être l'heure du journal de France Culture. Un grand merci à vous.
Merci à vous.
Donc c'est jusqu'au 15 octobre, au Bouffe du Nord, le théâtre. Traviata, vous méritez un avenir meilleur. Et puis après, balade en France. On espère. Merci à vous.
Merci beaucoup.